La mentalité de la conquête. La science moderne a fleuri dans les empires européens. La discipline est de toute évidence largement redevable aux traditions scientifiques anciennes de la Grèce antique, de la Chine, de l'Inde et de l'Islam. Mais ce qu'elle a d'unique n'a commencé à prendre forme qu'au début des temps modernes, de pair avec l'expansion impériale de l'Espagne, du Portugal, de la Grande-Bretagne, de la France, de la Russie et des Pays-Bas. Au début des temps modernes, Chinois, Indiens, musulmans, indigènes d'Amérique et Polynésiens continuèrent de faire des contributions importantes à la révolution scientifique. Adam Smith et Karl Marx se penchèrent sur les intuitions des économistes musulmans. Des traitements conçus par les indigènes d'Amérique se retrouvèrent dans les manuels de médecine anglais et des données recueillies auprès d'informateurs polynésiens révolutionnèrent l'anthropologie occidentale. Jusqu'au milieu du XXe siècle, cependant, ce sont les élites dirigeantes et intellectuelles des empires mondiaux européens qui collationnèrent cette multitude de découvertes et, ce faisant, créèrent des disciplines scientifiques. L'Extrême-Orient et le monde islamique engendrèrent des esprits aussi intelligents et curieux que ceux de l'Europe. Entre 1500 et 1950, toutefois, ils ne produisirent rien qui se rapproche un tant soit peu de la physique newtonienne ou de la biologie darwinienne. Cela ne veut pas dire que les Européens aient un gène de la science, ni qu'ils domineront éternellement les études physiques et biologiques. De même que l'islam fut d'abord un monopole arabe, avant de s'étendre aux Turcs et aux Persans, de même la science moderne fut d'abord une spécialité européenne, mais devient aujourd'hui une entreprise multiethnique. Comment se forgea le lien historique entre la science moderne et l'impérialisme européen ? Si la technologie fut un facteur important au XIXe et XXe siècle, elle était d'une importance limitée au début de l'époque moderne. Le facteur clé est la tournure d'esprit que partageaient le botaniste en quête de plantes et l'officier de marine en quête de colonies. Le savant et le conquérant commençaient tous deux par un aveu d'ignorance. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Tous deux se sentaient obligés de partir faire de nouvelles découvertes, et tous deux espéraient que le nouveau savoir ainsi acquis ferait d'eux les maîtres du monde. L'impérialisme européen fut très différent de tous les autres projets impériaux de l'histoire. Les précédents chercheurs d'empire avaient tendance à croire qu'ils comprenaient déjà le monde à la perfection. La conquête se contenta d'utiliser et de propager leur vision du monde. Les Arabes, pour ne donner qu'un exemple, ne conquirent pas l'Égypte, l'Espagne ou l'Inde pour découvrir quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Romains, Mongols et Aztèques conquirent voracement de nouvelles terres en quête de pouvoir et de richesses, mais pas de savoir. Les impérialistes européens, en revanche, firent voile vers de lointains rivages dans l'espoir d'obtenir de nouvelles connaissances en même temps que de nouveaux territoires. James Cook ne fut pas le premier explorateur à envisager les choses ainsi. Les voyageurs portugais et espagnols des XVe et XVIe siècles partageaient déjà cet état d'esprit. Le prince Henri le Navigateur et Vasco de Gama explorèrent les côtes d'Afrique et, ce faisant, prirent le contrôle d'îles et de ports. Christophe Colomb découvrit l'Amérique et revendiqua aussitôt la souveraineté sur les terres nouvelles pour les rois d'Espagne. Fernand de Magellan trouva le moyen de faire le tour du monde et, dans le même temps, jeta les fondements de la conquête espagnole des Philippines. Avec le temps, la conquête du savoir et la conquête du territoire furent toujours plus étroitement entremêlées. Au XVIIIe et XIXe siècle, presque toutes les expéditions militaires quittant l'Europe pour de lointains rivages embarquaient des savants venus non pas se battre, mais faire des découvertes scientifiques. Quand Napoléon envahit l'Égypte en 1798, il emmena avec lui 165 savants. Entre autres choses, ils fondèrent une discipline entièrement nouvelle, l'égyptologie, et apportèrent des contributions importantes à l'étude de la religion, de la linguistique et de la botanique. En 1831, la Royal Navy dépêcha le HMS Beagle afin de cartographier les côtes de l'Amérique du Sud, les îles Malouines et les Galapagos. La marine avait besoin de ces renseignements pour renforcer l'emprise impériale de la Grande-Bretagne sur l'Amérique du Sud. Homme de science amateur, le capitaine décida de s'adjoindre un géologue afin d'étudier les formations géologiques que l'expédition pourrait rencontrer en chemin. Plusieurs géologues professionnels ayant décliné son invitation, le capitaine offrit la place à un jeune diplômé de Cambridge, Charles Darwin, alors âgé de 22 ans. Celui-ci avait fait des études pour devenir pasteur anglican, mais la géologie et les sciences naturelles l'intéressaient bien plus que la Bible. Darwin sauta sur l'occasion. Le reste appartient à l'histoire. Le capitaine occupa son temps en dessinant des cartes militaires, tandis que Darwin recueillait des données empiriques et formulait les intuitions qui déboucheraient finalement sur la théorie de l'évolution. Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin mirent le pied sur la surface de la Lune. Dans les mois précédant l'expédition, les astronautes d'Apollo 11 s'entraînèrent dans un désert lunaire de l'ouest des États-Unis. La zone abrite plusieurs communautés indigènes américaines. Une anecdote, à moins que ce ne soit une légende, rapporte la rencontre des astronautes et d'un habitant du coin. Un jour qu'ils s'entraînaient, les astronautes tombèrent sur un vieil indigène américain. L'homme leur demanda ce qu'ils fabriquaient là. Ils répondirent qu'ils faisaient partie d'une expédition de recherche qui allait bientôt partir explorer la Lune. Quand le vieil homme entendit cela, il resta quelques instants silencieux, puis demanda aux astronautes s'ils pouvaient lui faire une faveur. « Que voulez-vous ? » « Eh bien, fit le vieux, les gens de ma tribu croient que les esprits saints vivent sur la Lune. Je me demandais si vous pouviez leur transmettre un message important de la part des miens. « Et quel est le message ?» demandèrent les astronautes. L'homme marmonna quelque chose dans son langage tribal, puis demanda aux astronautes de le répéter jusqu'à ce qu'il l'ait parfaitement mémorisé. « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?»« Je ne peux pas vous le dire. C'est un secret que seuls sont autorisés à savoir notre tribu et les esprits de la Lune. » De retour à leur base, les astronautes ne ménagèrent pas leurs efforts pour trouver quelqu'un qui sût parler la langue de la tribu et le prièrent de traduire le message secret. Quand ils répétèrent ce qu'ils avaient appris par cœur, le traducteur partit d'un grand éclat de rire. Lorsqu'il eut retrouvé son calme, les astronautes lui demandèrent ce que ça voulait dire. L'homme expliqua. Ce qu'ils avaient si méticuleusement mémorisé voulait dire « Ne croyez pas un seul mot de ce qu'ils vous racontent. Ils sont venus voler vos terres. » Carte vide. La mentalité moderne du « explorer et conquérir » trouve une belle illustration dans l'histoire des cartes du monde. Beaucoup de cultures dessinèrent des cartes longtemps avant les temps modernes. De toute évidence, aucune d'entre elles ne connaissait vraiment la totalité du monde. Aucune culture afro-asiatique ne connaissait l'Amérique, ni aucune culture américaine l'Afro-Asie. Mais les régions peu familières étaient purement et simplement laissées de côté ou emplies de monstres et de prodiges imaginaires. Aucun espace vide sur ces cartes. Elles donnaient l'impression d'un monde totalement familier. Au XVe et XVIe siècle, les Européens se mirent à dessiner des cartes du monde avec quantité d'espaces vides, signe de l'essor de l'esprit scientifique, mais aussi de la dynamique impériale européenne. Les cartes vides étaient une percée psychologique et idéologique, l'aveu sans détour que les Européens ignoraient une bonne partie du monde. Le tournant décisif survint en 1492 quand Christophe Colomb quitta l'Espagne, faisant voile vers l'ouest à la recherche d'une nouvelle route vers l'est asiatique. Colomb croyait encore aux vieilles cartes complètes du monde. Sur cette base, il calcula que le Japon devait se situer à 7000 km à l'ouest de l'Espagne. Plus de 20 000 km et tout un continent inconnu séparent en réalité l'Asie de l'Est de l'Espagne. Le 12 octobre 1492, vers 2h du matin, l'expédition de Colomb se heurta à un continent inconnu. Depuis le poste de vigie de son navire La Pinta, Juan Rodriguez Bermejo repéra une île de ce que nous appelons de nos jours les Bahamas et s'écria « Terre ! Terre !» Colomb crut avoir atteint un îlot au large des côtes est-asiatiques. Aux habitants des lieux, il donna le nom d'Indien parce qu'il imaginait avoir débarqué aux Indes. ce que nous appelons aujourd'hui les Indes orientales ou l'archipel indonésien. Colomb s'accrocha à son erreur jusqu'à la fin de sa vie. Pour lui, comme pour beaucoup d'hommes de sa génération, l'idée qu'il eût découvert un continent totalement inconnu était absolument inimaginable. Des millénaires durant, les penseurs et savants les plus grands, mais aussi les écritures infaillibles, n'avaient connu que l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Tous auraient-ils pu se tromper? La Bible aurait-elle pu oublier la moitié du monde? Comme si, en 1969, en route vers la Lune, Apollo 11 s'était heurté à une Lune encore inconnue qui tournait autour de la Terre et qui eût échappé d'une manière ou d'une autre à toutes les observations antérieures. Dans son refus d'admettre son ignorance, Christophe Colomb était encore un homme du Moyen Âge. Il était convaincu de connaître le monde entier et même cette découverte capitale ne parvint à le persuader du contraire. Le premier homme moderne fut Amerigo Vespucci, un marin italien qui prit part à plusieurs expéditions vers l'Amérique dans les années 1499-1504. Entre 1502 et 1504, furent publiés en Europe deux textes relatant ces expéditions. Attribués à Vespucci, ils expliquaient que les terres nouvelles découvertes par Colomb n'étaient pas des îles au large des côtes est-asiatiques, mais tout un continent inconnu des écritures, des géographes antiques et des Européens contemporains. En 1507, convaincu par ces arguments, un cartographe respecté du nom de Martin Waldseemüller publia une carte du monde mise à jour, la première qui indiqua sous la forme d'un continent séparé la terre où avaient accosté les flottes européennes faisant voile vers l'ouest. L'ayant dessiné, Waldseemüller devait lui donner un nom. Croyant à tort que c'était Amerigo Vespucci qui l'avait découvert, Waldseemüller baptisa le continent en son honneur, America. La carte de Waldseemüller devint très populaire. Maints autres cartographes la copièrent, propageant le nom qu'il avait donné à la Terre Nouvelle. Il y a une certaine justice poétique dans le fait qu'un quart du monde et deux des sept continents aient reçu le nom d'un Italien peu connu, dont le seul titre de gloire est d'avoir reconnu « Nous ne savons pas ». La découverte de l'Amérique fut l'événement fondateur de la révolution scientifique. Non seulement elle apprit aux Européens à favoriser les observations présentes sur les traditions passées, mais le désir de conquérir l'Amérique obligea aussi les Européens à chercher de nouvelles connaissances à une vitesse époustouflante. S'ils voulaient vraiment dominer ces nouveaux territoires immenses, il leur fallait recueillir d'énormes quantités de données sur la géographie, le climat, la flore, la faune, les langues, les cultures et l'histoire du nouveau continent. Écriture chrétienne, vieux livres de géographie et anciennes traditions orales n'étaient pas d'un grand secours. Dorénavant, les géographes européens, mais aussi les savants européens dans presque tous les autres domaines du savoir, se mirent à dresser des cartes avec des espaces vides à remplir. Ils commencèrent à admettre que leur théorie n'était pas parfaite et qu'il y avait des choses importantes qu'ils ne savaient pas. Attirés par les points blancs de la carte, comme par des aimants, les Européens s'empressèrent de les remplir. Au XVe et XVIe siècle, les expéditions européennes firent le tour de l'Afrique, explorèrent l'Amérique, traversèrent le Pacifique et l'océan Indien et créèrent un réseau de bases et de colonies à travers le monde. Elles installèrent les premiers empires véritablement mondiaux et tricotèrent le premier réseau commercial mondial. Les expéditions impériales européennes transformèrent l'histoire du monde. Une série d'histoires de peuples et de cultures isolées laissa place à l'histoire d'une seule et unique société humaine intégrée. Ces expéditions européennes d'exploration et de conquête nous sont si familières que nous avons tendance à perdre de vue ce qu'elles avaient d'extraordinaire. Rien de comparable n'était encore jamais arrivé. Les campagnes de conquête à longue distance ne sont pas une entreprise naturelle. Tout au long de l'histoire, les sociétés humaines ont été tellement occupées par les conflits locaux et les querelles de voisinage qu'elles n'ont jamais envisagé d'explorer et de conquérir des terres lointaines. La plupart des grands empires n'étendirent leur domination qu'à leur voisinage immédiat. S'ils atteignirent des terres lointaines, c'est simplement que le voisinage ne cessait de s'étendre. Ainsi, Les Romains conquirent l'Étrurie pour défendre Rome, autour de 350-300 avant l'ère vulgaire. Puis ils conquirent la vallée du Pô afin de défendre l'Étrurie, moins 200. Ils conquirent ensuite la Provence pour défendre la vallée du Pô, moins 120. La Gaule pour défendre la Provence, autour de moins 50. Puis la Grande-Bretagne pour défendre la Gaule, autour de 50 ans après Jésus-Christ. Il leur fallut 400 ans pour aller de Rome à Londres. En 350 avant notre ère, aucun Romain n'aurait imaginé faire voile droit sur la Grande-Bretagne et la conquérir. À l'occasion, un souverain ambitieux ou un aventurier se lançait dans une campagne de conquête au long cours, mais ces campagnes suivaient d'habitude les sentiers battus de l'Empire et du commerce. Les campagnes d'Alexandre le Grand, par exemple, n'aboutirent pas à la création d'un nouvel empire, mais plutôt à l'usurpation d'un empire existant, celui des Perses. S'agissant des empires européens modernes, les précédents les plus proches sont les anciens empires navals d'Athènes et de Carthage, ainsi que l'empire maritime médiéval de Majapahit, qui dominait une bonne partie de l'Indonésie du XIVe siècle. Reste que même ces empires s'aventuraient rarement dans les mers inconnues. Leurs exploits maritimes étaient des entreprises locales en comparaison des aventures mondiales des Européens modernes. Pour beaucoup de spécialistes, les voyages de l'amiral Zheng He, sous la dynastie chinoise des Ming, annoncent et éclipsent les voyages européens de découverte. Entre 1405 et 1433, Zheng conduisit plusieurs immenses armadas de la Chine au fin fond de l'océan Indien. La plus grande comptait près de 300 bateaux et pas loin de 30 000 hommes. Il visita l'Indonésie, le Sri Lanka, l'Inde, le Golfe Persique, la Mer Rouge et l'Afrique de l'Est. Les navires chinois mouillèrent à Jeddah, le principal port du Hedjaz, et à Malindi, sur la côte kényane. La flotte de colons en 1492, trois petits navires pour 120 hommes d'équipage, était un trio de moustiques en comparaison du troupeau de dragons de Zheng He. Il y avait pourtant une différence cruciale. Zheng He explora les océans et aida les souverains pro-chinois. Il n'essaya pas de conquérir ni de coloniser les pays visités. De surcroît, ces expéditions n'avaient pas de racines profondes dans la vie politique et la culture chinoise. Quand la faction dominante à Pékin changea dans les années 1430, les nouveaux seigneurs mirent brutalement fin à l'opération. La grande flotte fut démantelée. Un savoir technique et géographique crucial se perdit. Aucun explorateur de cette stature et aux moyens comparables ne devait plus jamais sortir d'un port chinois. Les souverains chinois des siècles suivants, comme la plupart des souverains chinois des siècles passés, cantonnèrent leurs intérêts et ambitions aux environs immédiats de l'Empire du Milieu. Les expéditions de Zheng He prouvent que l'Europe ne jouissait pas d'un avantage technologique frappant. Ce qui rendit les Européens exceptionnels, c'est leur ambition sans parallèle et insatiable d'exploration et de conquête. Même s'ils en avaient peut-être les moyens, jamais les Romains n'essayèrent de conquérir l'Inde ou la Scandinavie, ni les Perses, Madagascar ou l'Espagne, ni les Chinois, l'Indonésie ou l'Afrique. La plupart des souverains chinois laissèrent même le Japon voisin livré à lui-même. Il n'y avait là rien de très particulier. Ce qui est étrange, c'est bien que les Européens de l'aube des temps modernes aient été saisis d'une folie fébrile qui les poussa à faire voile vers des terres lointaines et totalement inconnues, pleines de cultures étrangères, à mettre le pied sur leur plage et à déclarer aussitôt « Je revendique tous ces territoires pour mon roi ».